C'est le moment de nos Globetrotters le vendredi. Deux groupes de Globetrotters. On commence avec la famille Pache. Famille Pache, sous-titre Les Cachotiers. C'est comme ça qu'on va les appeler dorénavant. Alors on vous rappelle un peu leur projet. Ils sont partis en couple il y a plusieurs années pour un projet des Alpes suisses aux Alpes du Sud. Un long périple à vélo entre la Suisse et la Nouvelle-Zélande. Avec des boucles, des circonvolutions parce qu'ils n'aiment pas trop la ligne droite. Et beaucoup, beaucoup de coups de pédale. Ils sont partis à deux. Et ils sont arrivés à la fin de ce premier projet à trois. Par quel miracle? Eh bien, par le miracle de l'amour, avec une naissance en Malaisie tout en cheminant la petite Naila. Et puis, plutôt que rentrer en Suisse après une trotte pareille, eh bien, ils ont entamé un nouveau projet, un nouveau périple, un nouveau voyage, toujours à vélo et toujours en famille. Cette fois, l'idée, c'est monter vers le nord, vers le pôle nord, mais pas en ligne droite. Une fois de plus, on vous le rappelle, ils n'aiment pas les lignes droites. Non, monter en spirale. On les avait rencontrés avant l'été pour un entretien très sympa sur l'île de Corée, une île de Corée du Sud, une île qui s'appelle Jeju. Et puis, quand on était arrivé à la fin de cet entretien, on leur avait demandé, puis alors la suite, Xavier Pache, qu'est-ce que ça va être la suite? Notez la façon peu précise dont il avait évoqué la suite, à l'époque.
Oui, alors on va rester un petit moment sur cette île de Jeju. On va peut-être se poser un petit peu ici et là, faire un peu de camping au bord de l'eau, un petit peu découvrir l'île.
Ah, c'est louche tout ça en fait, après coup. C'est flou, on sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Eh bien, devinez quoi, ils nous cachaient quelque chose. Je les rappelle, ils sont en Malaisie, là où était née leur première fille. Ça commence à devenir plus que louche, alors je leur demande si franchement ils nous ont pas caché quelque chose.
Oui, effectivement. Donc, la naissance de Phoebe.
Notre deuxième fille.
Elle est née le 9 août.
Donc, vous étiez enceinte la dernière fois qu'on s'est parlé, Céline?
Eh ben oui, j'étais enceinte. C'est vrai qu'on a voulu garder un peu ce moment pour les trois, un moment un peu sacré. Et puis voilà, maintenant la petite Phoebe est là, donc on est tout contents de partager cette grande nouvelle, cette célébration de la vie.
Ouais, félicitations, vraiment. Comment ça se passe quand on est loin de chez soi, on est en voyage? Vous êtes parti de la Suisse en 2010, alors il y a eu après, vous avez déjà fini un grand projet, mais enceinte, loin de son pays, dans des pays étrangers, je le dis, je force un peu le trait, comment ça se passe?
C'est vrai que pour cette expérience, pour cette seconde naissance, eh bien, c'est vrai qu'on avait l'expérience de Naila, donc on était un petit peu moins stressé que la première fois, mais ça reste quand même qu'on est loin de tout et puis on se retrouve un peu seul, donc tous les contrôles, tout le suivi médical pour la naissance, on a dû le faire nous-mêmes.
Naila est née sur la route exactement comme Phoebe, donc les deux sont nés en Malaisie en fait à Penang. Et puis moi je voulais juste revenir par rapport à la grossesse. C'est vrai que Xavier disait on est un peu seul. Ça, c'est vrai, on se sent par moments un peu seul, mais en même temps, c'est une grande force, parce que du coup, on est obligé d'aller finalement chercher ce qu'on a vraiment envie. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur les naissances dans l'eau, par exemple, et ça, c'est quelque chose qu'on avait envie d'avoir comme option, et c'est pour ça, notamment, qu'on est retourné à Penang.
On va parler de ce choix de la Malaisie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé deux fois de donner la vie en Malaisie? Mais avant cela, Céline, quand on est enceinte, on le sait, il peut y avoir des petits soucis, on peut avoir la nausée, on peut avoir affreusement mal au dos, ça dépend de chaque femme. Mais du coup, quand on fait du vélo, quand on se déplace, quand on vous avait parlé, on était sur une petite île en Corée du Sud, ça se passe comment concrètement?
Moi, j'ai pas vraiment eu de nausée. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines nourritures qui sont plus difficiles à avaler que d'autres.
Comme par exemple, concrètement
En Corée, il y avait le kimchi, là. Celui qui avait un fort goût de poisson, c'était assez difficile. Après, sinon, quand on fait du vélo enceinte, c'est vrai qu'il se passe plein de choses. C'est-à-dire que d'habitude, je connais bien mon corps et c'est facile pour moi de savoir quand j'arrive vers mes limites ou quand le corps il est fatigué, donc il y a un crescendo qui se met en place et on sent là j'arrive gentiment à un moment où je dois me reposer. Avec cette grossesse, c'était impossible. C'est-à-dire que je passais de tout va bien à rien ne va plus, il faut que je m'arrête. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de transition entre les deux.
Du coup, est-ce que vous avez privilégié des endroits où vous êtes resté un peu plus longtemps que d'habitude?
Ouais, on a privilégié, on est resté un peu plus, plus calme, on dira. On a moins roulé et puis on a profité de faire beaucoup plus de rencontres avec les gens.
Vous étiez en Corée du Sud la dernière fois qu'on s'est parlé, sur une petite île, hein, tout au sud, sur l'île de Jeju. Est-ce qu'en Corée, il y a une place particulière de la femme enceinte? Je sais pas, je pense par exemple au sud de l'Europe, où là, il va y avoir beaucoup d'attention pour les femmes enceintes. Vous avez senti un regard particulier en Corée du Sud sur la grossesse?
Non, pas vraiment, non.
J'ai pas l'impression non plus.
Au Bangladesh, pour Naïla.
Plus que là, ouais.
Plus bon. Que là, au Bangladesh, c'était vraiment un tabou. Donc il faut pas dire en fait qu'on est enceinte pour pas attirer le mauvais œil. Donc voilà, quand je disais que j'étais enceinte, il y avait un espèce de grand malaise et c'était vraiment le tabou à pas prononcer. Donc on n'a pas compris tout de suite pourquoi. Et puis après, ben, quand on a compris, ben là après, ben voilà, on le mentionnait simplement plus. En Corée du Sud, non, on n'a pas du tout ressenti ça. Les gens sont plutôt heureux qu'on soit enceinte, simplement. Ouais.
Donc vous avez accouché en Malaisie. J'ai une carte sous les yeux. Corée du Sud, Malaisie, il y a quand même plusieurs milliers de kilomètres à la louche. Hein, c'est pas du tout proche. Vous êtes resté jusqu'au combienième mois en Corée du Sud? Vous avez fait Corée du Sud, Malaisie en avion d'un coup? Ça s'est passé comment?
Non,
alors on a fait une escale par Taïwan. Taïwan, il y avait un but, c'est qu'on allait y chercher des nouveaux vélos. Et puis il faut savoir que Taïwan, ils fabriquent le 60% des vélos du monde.
Et puis comme nos vélos, ben, ils ont déjà roulé 60 000 km, c'était un peu le moment de tout changer.
Et comment ils sont ces vélos alors?
Ils sont bien, on est vraiment content d'avoir des nouveaux vélos.
Ils sont, c'est des vélos, c'est la particularité c'est que c'est des vélos en acier inoxydable, donc en inox. La marque, ça s'appelle Ricula.
C'est une toute petite compagnie.
C'est une toute petite compagnie d'une dizaine de personnes. Donc, on a vraiment eu un contact particulier avec le créateur de ces vélos. Donc, c'était vraiment sympa. Et puis, ben, en fait, Ricula, ça veut dire la panthère nébuleuse. C'est un animal qui vient de Taïwan. Et il symbolise la grâce, l'agilité et puis la vitesse. Et ben, on espère que ces vélos qui sont une panthère nous amèneront loin.
Ça ressemble à quoi, Taïwan?
Alors, Taïwan, ça ressemble à la Chine, les bons côtés de la Chine, si on veut.
C'est assez incroyable parce que c'est une toute petite île qui part, bah, c'est vrai que, bah, du coup, de l'océan à 4000 mètres d'altitude et qui est recouverte principalement d'une forêt impénétrable. Et on oublie souvent cette partie de nature de Taïwan parce que c'est vrai qu'il y a aussi une... C'est un pays qui est un des plus peuplés au monde. Au niveau de la densité de population. Pour moi, en tout cas, c'est presque difficile tellement on sent la population. C'est comme s'il y avait vraiment des battements de cœur qui s'entrechoquaient. On sentait les battements de cœur s'entrechoquer, pour moi.
Bah, c'est vrai que d'à côté, bah, la côte ouest, comme disait Céline, bah, c'est des villes qui se suivent les unes après les autres. Donc à vélo, c'est pas très intéressant. Mais de l'autre côté, par contre, c'est assez génial, c'est assez magnifique.
Et on mange quoi à Taïwan?
Ben en fait, il faut savoir que la nourriture à Taïwan, c'est vraiment le centre de ce que fait la population.
Donc on mange tout le temps.
Donc on mange tout le temps. Quand on est invité chez des gens, quand on va chez quelqu'un, le principal hobby, c'est de manger. Parce que la nourriture, ça aide pour tout ce qui est émotionnel. Donc si on ne se sent pas bien, on va manger. Si on a envie de passer le temps, on va manger. Si on a envie de faire quelque chose de spécial, on va aller dans un restaurant particulier, donc on va rouler peut-être une heure pour aller dans ce restaurant-là en particulier.
Quand on fait du vélo, on a fait du vélo avec des Taïwanais, on s'arrête toutes les demi-heures, une heure pour manger quelque chose. Donc la nourriture, c'est très important et c'est assez génial parce que d'être avec les gens, on a dégusté, on a goûté tellement de plats différents. Ça ressemble pas mal quand même à la Chine.
À la Chine, ouais. Après, il y a une des particularités, c'est le tofu puant. Alors il a son nom.
Ça a l'air bien.
Oui, ouais, ben voilà. Il a son nom parce que vraiment il pue, on peut le dire. Donc il a une odeur très très forte. Il est souvent frit, donc en plus avec une odeur de friture, de vieille huile un peu. Donc c'est assez abominable. Une fois dans la bouche,
ça va.
C'est pas mal. Et c'est vrai qu'on s'habitue au goût. Ou bien peut-être que nos papilles gustatives sont habituées à déguster plein de saveurs différentes. Mais en tout cas, ça. C'est bon, on peut le manger, nous.
Il y a un côté un peu fromage ou pas du tout, dans cette force?
Non,
non pas du
ça
tout.
Ressemble à pas grand-chose.
de l'odeur des toilettes, moi je dirais.
Ah, vous le vendez bien en tout cas. Hein. Depuis Taïwan, vous êtes parti donc pour la Malaisie en avion, vous nous l'avez dit, le but de la Malaisie c'était pour l'accouchement.
Oui, alors oui. Une fois qu'on était à Taïwan, enfin depuis un petit moment, en Corée du Sud, Taïwan, on a regardé plein d'endroits où c'est qu'on pourrait donner naissance. Donc c'est vrai que là on s'est dispersé, enfin on a cherché sur internet, on a eu des quelques contacts ici et là, on a regardé au Japon, en Corée, à Taïwan entre autres, on a regardé même plus loin, même peut-être l'Europe ou plein de pays différents. Et c'est vrai qu'au bout du compte, on retombait toujours sur la Malaisie, ici sur Penang. Pourquoi Penang? Pourquoi la Malaisie? Déjà, il y a le fait de l'administration. Donc au niveau des visas, on peut y rester 3 mois sans demander de visa. On peut prolonger notre visa relativement facilement ici en Malaisie. Il y a l'hôpital, on connaissait déjà le médecin, on connaissait l'hôpital, on connaissait les lieux. Le coût de la vie, il est vraiment bas par rapport aux pays comme la Corée du Sud ou Taïwan. Donc finalement, on s'est dit, ben voilà, on va revenir ici.
C'est-à-dire que Penang, c'est quand même particulier. Donc ici, on a la vue sur la mer, sur l'océan. Juste derrière chez nous, il y a la forêt tropicale. Donc c'est assez magnifique. Et puis du coup, c'est un endroit qu'on avait apprécié pour accueillir Naïla. Et cette douceur, on avait assez envie, en fait, pour accueillir notre deuxième enfant aussi. Et puis la deuxième chose, c'est que nous, on avait envie d'une naissance naturelle, c'est-à-dire une naissance par voie basse, mais aussi sans, si possible, sans péridurale, donc sans antidouleur. Donc Penang avait l'option d'une naissance où on connaît le médecin, il est très pro. Bon, on savait qu'on serait respecté et c'est pour ça qu'on est revenu ici.
Quand vous avez réfléchi à tous les différents endroits où c'était possible, où vous pourriez aller pour l'accouchement, là vous avez pris l'avion. Est-ce que quand même l'idée de revenir en Suisse vous a effleuré l'esprit? Parce qu'il y a non seulement les conditions, alors après bon ça on peut en discuter, mais on sait qu'elles sont pas mal, mais il y a aussi la famille qui est là en Suisse.
En fait, quand on a accueilli Naïla, on a demandé quelque chose à nos parents. Donc, ils voulaient venir tout de suite, évidemment, pour voir leur petite fille. Et en fait, on leur a demandé d'attendre. Parce que nous, on avait envie de pouvoir trouver notre équilibre à 3 avant qu'ils arrivent. On l'a tellement apprécié que je crois qu'on avait envie, besoin de le vivre à nouveau.
Et vous, Xavier? Même chose?
Ouais, la même chose. C'était, moi, je parlais plus aussi, je pensais plus au niveau de nouveau administratif. Parce que c'est vrai qu'on a enlevé nos papiers de la Suisse. Et puis, si on revenait en Suisse, eh bien, il y avait toutes les procédures administratives, comme bêtement l'assurance maladie, remettre les papiers dans une commune pour avoir l'assurance maladie, pour aller dans un hôpital. Donc, il y avait toute cette administration qu'on n'avait pas envie de faire.
Et puis, la famille, par contre, ils ont déjà leur billet d'avion pour la Malaisie et ils comptent les jours ou...
Plus ou moins, il y a la moitié qu'ils ont déjà leur billet d'avion.
Vous craignez un peu cet envahissement familial?
Non, pas du tout. En fait, nos parents sont souvent venus nous rendre visite durant notre voyage, notre vie. Ils sont venus nous retrouver ici et là, au Kyrgyzstan, au Népal, en Malaisie. Donc, on se réjouit de...
Non, je crois que c'est justement au contraire, on se réjouit vraiment. C'était plutôt dans l'idée que, en fait, du moment que Phoebe est un peu plus grande, donc c'est-à-dire, ben voilà, quand Phoebe, ils vont nous rejoindre quand Phoebe, elle aura certainement 2 mois, ben, du coup, on peut plus profiter parce que nous, on a un petit peu trouvé notre équilibre. Et puis, du coup, on peut vraiment profiter d'eux tous ensemble.
Et eux peuvent profiter d'elle.
Eux peuvent profiter d'elle, voilà.
Ok, puis peut-être la dernière question, mais une question principale. Est-ce qu'elle fait ses nuits? Est-ce qu'elle mange bien? Et est-ce qu'elle a pris du poids?
Oui, alors... non, oui.
Réalisation David Golland. Un grand merci à la famille Pache. Merci à eux. On leur souhaite bien sûr une très bonne suite à 4. Je l'ai dit, la réalisation était David Golland. Et puis les petits cris en bruit de fond étaient signés Phoebe Pache. On la remercie aussi pour sa collaboration dans cette séquence. Nous avons toujours deux Globetrotters le vendredi. Le deuxième, c'est Sylvain Nicolier, qu'on n'a encore jamais entendu. On va le rencontrer. Ce sera après le choix musical de Nathalie Schauenberg. Ça s'appelle Poisson gris.
L'abordage. Où aller, car si la mer est vaste, elle est aussi salée. Je suis la marée noire, je vais vers le soleil, couchant dans tes petits bras tristes, je vais me retrouver. Oh, où vas-tu, petit poisson gris? Oh, où vas-tu, petit poisson gris? Je ne vais nulle part, mais nulle part où aller, car si la mer est vaste, elle est aussi fermée. La tristesse est un vice, un lit où je glisse doucement dans tes petits bras tristes, je vais me retrouver. Ces obscurités, la tristesse est un vice, un lit où je glisse doucement. Jusqu'où, petit poisson, comptes-tu m'emmener? Oh, où vas-tu, petit poisson gris? Oh, où vas-tu, petit poisson gris?
Le choix de Nathalie Schauenberg pour aller avec nos Globetrotters, c'était Irène Jacob, poisson gris. Ce n'est pas un poisson, il n'est pas gris non plus, il est plutôt blond. Sylvain Nicolier, notre deuxième Globetrotter. Alors lui, c'est un professionnel du voyage. Vous savez, on aime bien avoir des profils différents. Il y a Pascal Berti qui fait le tour du monde à vélo, c'est un programme personnel. On a Gilles et Daniel Hubert, eux, ils sont partis réaliser un documentaire au Kyrgyzstan. On a plein de gens comme ça. Eh bien, Sylvain Nicolier, lui, sa particularité, c'est que le programme de son voyage, les choses qu'il va y faire, sont dans une certaine mesure dictées par les internautes. internautes, par ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux. Ils peuvent lui proposer des défis et Sylvain Nicollier les fait. Pour simplifier, Sylvain Nicollier travaille en Suisse l'été, puis part, en tout cas en automne. On l'a attrapé juste avant son départ pour le Madagascar. Et pour qu'on se rende bien compte de ce qu'il fait durant ses voyages, David Golland, qui a réalisé la séquence, a ajouté des extraits des vidéos qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, les vidéos et des extraits de ses anciens voyages, parce que Sylvain Nicollier est quelqu'un d'assez calme durant l'interview, mais quand on va voir ces vidéos où il est torse nu et il affronte des buffles à main nue, on se dit qu'il doit y avoir deux personnages différents. Vous allez découvrir tout ça. Je l'ai rencontré en studio à la radio à Lausanne et je commence par lui demander quand est-ce qu'il part exactement pour le Madagascar.
Alors demain matin à 4h du matin.
Il vous reste quoi à faire?
Alors je dois vider mon appartement, faire mon sac, vérifier que j'ai pris les bons câbles avec moi pour pas arriver sur place et se rendre compte que j'arrive rien à brancher.
Vous êtes déjà parti dans plein d'endroits, rien que ces derniers temps, Albanie, Sénégal, Polynésie. Déjà, pourquoi le choix de Madagascar cette fois?
Ça fait longtemps que j'avais envie d'y aller. C'est vrai que j'avais entendu des bons échos. On m'a dit que c'était incroyable, tant au niveau de la flore, de la faune, qui est endémique pour la plupart, et que les gens étaient vraiment très sympas. J'ai des amis aussi malgaches qui vivent ici à Lausanne. Du coup, en discutant avec eux, je m'étais dit, mais tiens, il faut vraiment que j'y aille.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur leur pays, alors?
Certains ont peur. Ils me disent, mais fais attention. Donc, en tout cas, la moitié du pays, c'est trop dangereux. Vas-y pas. Quoi, ils te mettent en garde. Mais ça, je pense, c'est dans tous les pays. Ils se sentent une certaine responsabilité qu'un ami part dans leur pays. Ils ont peur qu'il y ait quelque chose qui arrive. Donc, ils me disent, attention, faut pas manger dans la rue. Faut pas boire de l'eau. Faut faire attention aux salades qui sont lavées avec de l'eau, du robinet. Plein de mises en danger, un peu.
C'est marrant que vous parliez de ça, c'était une question que je voulais poser mais plus tard, parce que si on tape Madagascar, on tombe sur plein de sites alors du différent niveau de sérieux et de qualité qui disent que c'est un pays dangereux, qu'il faut faire attention, que ces derniers temps c'est devenu encore plus dangereux, qu'il faut pas se balader la nuit, qu'il y a des groupes armés, qu'il y a beaucoup de vols, etc. Vous pensez quoi de tout ça?
Moi je pense qu'on a toujours peur de l'étranger, tout ce qu'on connaît pas, on a peur, et puis j'essaie de déconstruire ça quelque part en allant moi-même et en voyant de mes propres yeux. J'ai fait plusieurs voyages qui sont considérés comme super dangereux. J'ai traversé le Mexique en achetant une voiture à Tijuana, 3 mois, j'ai passé 9 mois au Brésil, 3 mois dans les favelas, genre de choses. Donc je pense que si on fait confiance aux gens sur place et on suit sa bonne étoile, je pense que j'ai la capacité aussi à essayer de cerner les personnes qui sont en face de moi, à savoir s'ils me veulent du bien, du mal, si je peux leur faire confiance, si je peux les suivre. Et du coup, comme ça, de suivre son instinct et de vivre comme ça le voyage avec les gens sur place en leur faisant confiance.
On a galéré, on arrivait de nuit en 4x4 sur des routes en pierre qui sont un petit peu difficiles. Heureusement, il y avait quelqu'un qui est venu nous guider. Regardez à quoi ça ressemble la route ici. On vient de passer la nuit dans cette maison, dans une auberge internationale la plus secrète du monde. On était les combien clients?
Les 6e.
On va essayer de monter sur cette antenne.
Vous avez jamais peur?
J'ai toujours peur, mais c'est pour ça, c'est excitant. Sinon, si j'avais pas de peur, je pense je serais peut-être déjà mort et puis j'aurais pas autant de plaisir à faire ce que je fais.
Vous avez peur de quoi surtout quand vous voyagez?
Bah par exemple au Mexique quand j'avais 20 ans, j'ai failli me faire enlever. Ça, je crois que c'était la fois où j'ai eu le plus peur dans ma vie. Mais simplement d'être déçu, on a des attentes sur le pays, on m'en a beaucoup parlé en bien. Du coup, je me dis, mais tiens, faut pas que je me mette trop la pression si j'arrive. Et puis pour finir, je m'étais fait plein d'images, je l'ai trop idéalisé. Ce serait un peu dommage, je risque d'être déçu.
Vous avez prévu comment votre voyage? Vous êtes plutôt du style, j'ai un billet d'avion, j'atterris là et je découvre tout sur place? Vous êtes plutôt du style à avoir compulsé des livres, fait un programme, renseigné, appris quelques mots de malgache?
Non, alors justement, j'ai absolument rien préparé, surtout que j'arrive en Afrique. Et puis en Afrique, les choses, elles se passent plutôt sur place. Il y a deux manières. Soit je vais organiser avec des agences un circuit tout fait, mais comme je pars un mois et demi à 2 mois et demi, déjà, je sais même pas ma date de retour de Madagascar. Donc, c'est plus difficile de prévoir quelque chose. Les transports aussi sur place, ils sont vraiment chaotiques. Donc, je vais me laisser, en fait, guider au fur et à mesure. J'ai 2-3 petits plans, 5 jours par-ci, 5 jours par-là, qui sont déjà prévus. Mais le 90%, il est vraiment complètement à l'arrache. Et puis, je vais pouvoir vivre comme ça le voyage en fonction des transports.
Vous faites comme ça à chaque fois ou c'est spécifique pour Madagascar?
Ouais, je m'adapte un petit peu. Des fois, il y a des endroits où je vais, où c'est beaucoup mieux organisé, où je pars en lien avec des offices de tourisme qui m'invitent, où là j'ai un programme, etc. Mais là, je pars vraiment à l'arrache.
C'est quoi vos attentes particulières sur Madagascar? Vous l'avez dit en quelques mots, mais si on développe un peu, de quoi vous vous réjouissez? Et au contraire, qu'est-ce que vous dites? Ça va être un peu plus compliqué.
Mais ce que je me réjouis, c'est que c'est l'aventure. C'est un pays qui est peu visité, où il reste des coins très sauvages. Donc j'aime bien aller dans les voyages où c'est un peu plus difficile que des simples vacances dans un 5 étoiles, où les activités sont organisées du matin au soir, où vraiment on va chercher des choses intéressantes, on doit se déplacer, peut-être on galère un peu dans les transports, on bouffe des fois des trucs qui sont pas succulents parce que c'est simplement de la bouffe locale et tous les jours on va manger la même chose. Mais j'ai l'impression de vivre quelque chose qui est un peu plus extraordinaire, moins accessible, et là je suis dans l'aventure. Donc il y a ce côté aventure que je recherche, puis il y a des moments, bien sûr, j'ai quand même envie de confort, j'ai envie de voir des belles plages, des belles mers, de faire des activités, goûter des trucs qui sont bons, parce que les gens me lancent des défis et souvent ils me font goûter les trucs les plus dégueux, bizarres, en tout cas culturellement pour nous, qui semblent inaccessibles. Donc c'est toujours un mélange des deux, entre le confort et l'intensité de la découverte.
Tu m'as proposé de bouffer des couilles de bœuf. Manger un verre de bancoule. En tout cas, c'est tout chaud, j'avais froid.
Vos amis malgaches, ils vous ont du coup donné l'adresse des gens de leur famille, des conseils, des choses comme ça?
Exactement, donc j'avais un ami malgache qui m'a donné le contact de trois amis malgaches à lui. Ces trois amis m'ont donné des contacts de leurs cousins et de leurs cousines. Et du coup, j'ai un contact dans quasiment chacune des villes. Donc j'ai une carte avec tous les défis des internautes placés sur Madagascar. Et ensuite, tous les différents contacts que j'ai dans les villes. Et je vais me balader comme ça.
Parce que les défis, vous les connaissez avant? Vous dites,
voilà, alors en fait, j'ai fait une vidéo il y a trois semaines où j'ai demandé à ma communauté de me proposer des choses et j'ai sélectionné à peu près une soixantaine de défis. Puis après, c'est clair qu'au fur et à mesure que je voyage, les gens ils vont voir que je suis à Madagascar, ils vont me proposer encore des choses en fonction de ma localisation.
Salut, prochaine aventure de Suisse Moi, on part 101 jours en Afrique.
Et on commence par Madagascar.
Donc comme d'habitude, c'est toi qui vas choisir le contenu de nos aventures.
C'est-à-dire, propose-nous tes défis, les activités à faire, les personnes à rencontrer, les lieux à visiter, tout ça en commentaire juste là en dessous, et on le fait, on le filme et on te le montre.
Voilà, comme d'habitude, c'est toi qui vas définir le contenu de voyage. Commente dès maintenant, et on te remercie déjà, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!
On sait que les gens sont tous adorables, on est d'accord, mais des fois pas remplis d'imagination. Est-ce qu'il y a des défis qui reviennent à chaque fois, puis vous êtes là, non mais pas encore celui-là de défi?
Oui, c'est Internet, donc les gens sont derrière l'ordinateur, ils se lâchent. Et puis j'essaye aussi de sortir des simples coins touristiques connus. Puis c'est vrai que la plupart des gens, sur un endroit, ils connaissent avant tout les coins touristiques parce que c'est là où ils sont allés, etc. Donc après, j'essaie de m'appuyer aussi sur les locaux pour qu'ils me proposent des trucs culturellement intéressants ou des rites ou des expériences que les touristes n'ont pas forcément accès.
Vous dites les gens ils se lâchent, et puis quand j'ai dit que on sait que tous les gens sont adorables, vous avez fait un signe de la tête,
non,
plutôt
non.
C'est-à-dire que quoi, vous avez des internautes qui vous envoient des défis méchants, des choses comme ça ou...
Les gens, je crois qu'ils aiment que je bouffe des piments. Après, ça revient à chaque fois. Au Mexique, ils voulaient que je fasse des concours de bouffées de piments avec les locaux qui sont habitués depuis leur plus jeune âge. Là, c'est revenu. J'ai un défi dans un marché d'aller négocier une boîte de piments et manger la moitié. Mais c'est pas des trucs qui m'intéressent tellement. Je suis pas trop en mode jackass, vraiment me faire mal, me sentir pas bien pour faire plaisir aux gens. Moi, j'ai envie de vivre vraiment des expériences, montrer des trucs intéressants en vidéo.
C'est vrai que sur Internet, c'est hyper populaire, les vidéos de piments, hein.
Ouais, je sais pas pourquoi. Filmer quelqu'un qui le bouffe. Si quelqu'un veut venir et puis que je le filme, pourquoi pas? Mais moi, ça m'intéresse pas d'en manger.
C'est quoi, alors, inversement, le meilleur défi qu'on vous ait proposé? Vous vous êtes dit, ça, c'est vraiment une bonne idée.
Il y a les trucs qui me font autant peur que rêver, quoi. Il y a des cérémonies traditionnelles où on m'a invité, où ils retournent les morts. D'autres où ils envoûtent des gens avec des esprits vaudous, puis ils ressortent en transe. Et des trucs vraiment complètement traditionnels dans des petits villages, grâce à des contacts que j'ai eus, que j'aimerais aller filmer. Il y a aussi une lutte contre le zébu. Le zébu a une bosse et paraît-il sa bosse est chatouilleuse. Et eux, ils ont une tradition à partir du moment où ils sont adolescents pour passer à l'âge adulte, un rite où ils doivent accrocher cette bosse et essayer de tenir le plus longtemps.
Abloua, c'est la maman de...
C'est la maman de...
Alors je me prépare au rituel vaudou, je flippe un peu, je sais pas trop ce qui va se passer.
Ah ouais, t'as raison, donc des fois c'est des têtes de vache aussi. Oui,
oui, oui. Il veut commencer la prière.
D'accord.
Pour vous, toi. Et c'est moi qui vous amène ici.
D'accord.
Le tour vous déposer 2000.
Quand vous parlez là de rites qui ont l'air vraiment de rites importants, mortuaires, retourner les morts ou de rites religieux, vous arrivez avec cette notion de défi. Pour eux, c'est quelque chose de culturel profond. Là, vous n'avez pas peur de choquer ou de ne pas prendre au sérieux ou d'être sur un côté ludique là où il ne faudrait pas?
Bah après, bien sûr, faut toujours faire attention. Après, je parle de défis, mais c'est pour simplifier la chose. Dans la réalité, je fais beaucoup plus de choses. Je fais des rencontres, des visites. C'est plus large. Et du coup, ben moi, je vais filmer ça. Puis c'est vrai que souvent, les gens, ils sont intéressés qu'on connaisse mieux leur culture, qu'on découvre un autre aspect, sans avoir un a priori, parce que voilà, souvent, on est la culture occidentale et on croit tout savoir sur le reste du monde. Ben, moi, je viens avec un œil qui est relativement frais. Et du coup, ils apprécient parce qu'ils voient déjà mes anciennes vidéos que j'ai fait au Sénégal, par exemple, en Albanie. Où les locaux ils me disent mais c'est génial l'image du pays que t'as montré. Par exemple, au Sénégal je reçois tous les jours des messages des gens qui me disent mais t'as montré une image du pays qui est vraiment celle que je vis au quotidien parce que j'habite là-bas. Alors des fois on me le reproche parce que oui je vais montrer les choses qui sont plus jolies et puis qui sont intéressantes pour moi, mais des fois de rentrer dans les trucs vraiment sensibles comme là à Madagascar on me disait aussi oui alors au niveau politique qu'est-ce que tu penses, je fais bah moi c'est pas ce qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse c'est les gens, c'est ce qu'ils vivent et d'aller les rencontrer.
Bon là vous partez pas seul cela dit à Madagascar.
Alors voilà, je pars avec ma femme. Et ma femme me rejoint dans la plupart de mes voyages, surtout quand je pars longtemps. Sinon, il y a mon frère, ma sœur qui me rejoignent souvent, puis des amis aussi. Mais ma femme, ouais, voilà, c'est assez drôle parce qu'elle est russe, d'origine russe. Et du coup, elle avait l'habitude des all inclusive dans les hôtels. Et je lui ai fait découvrir une nouvelle façon de voyager. Elle est venue la première fois à Cancun. Je l'ai réceptionnée dans un joli hôtel. Et le lendemain, on est parti en road trip avec une voiture que j'avais achetée. Deuxième journée, on dormait dans une décharge. Et ensuite, on a fait un road trip comme ça, en dormant principalement dans la voiture, mais une voiture même pas aménagée, on baissait les sièges, on dormait comme ça. Et le jour de ses 25 ans, elle m'a dit, je lui ai dit, on se refait un bel hôtel, c'est ton anniversaire, on va fêter ça, tout ça. Puis elle a fait, non, je vais dormir dans la voiture. Et là, je me suis dit, ok, c'est la bonne personne pour partager mes aventures.
Ça change quoi quand elle est là ou pas?
Mais j'ai pas mal voyagé seul. Quand on voyage seul, c'est vrai que ça nous permet d'être encore plus en connexion avec les locaux et puis de se faire embarquer dans n'importe quelle histoire, aventure. On t'invite à venir manger, à aller dormir à droite, à gauche. Donc c'est vraiment un facilitateur de ce côté-là. Mais après, le problème quand on voyage seul, c'est qu'on est toujours en train de raconter les mêmes trucs. On croise des gens, alors tu viens d'où, tu fais quoi, t'es allé où, tu vas où. Et en fait, tu répètes ça en permanence. Donc en fait, il n'y a pas assez d'échanges profonds. Voyager seul, ça t'amène plein de choses. Je l'ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, mais maintenant je suis vraiment content de partir avec des gens que je connais bien.
We make a song together.
Si vous avez des bonnes idées, des trucs à me proposer qui sont sympas, donc là où je vais pas mourir tout de suite, où je vais me faire embarquer par la police, parce qu'il y a des gens aussi qui me lancent le défi de rester chez moi ou alors de me faire virer du pays tout de suite en arrivant. Donc c'est pas le but. Donc si vous avez des bonnes idées qui sont intéressantes à filmer, des lieux incroyables à visiter, vous pouvez aller me les proposer sur mes réseaux sociaux.
Alors pas de piment et pas de choses méchantes.
Non, un petit peu de piment. Un tout petit peu.
À bientôt.
Réalisation David Golan et un grand merci à Sylvain Nicolier. La prochaine fois qu'on l'entend, ce sera depuis Madagascar. Et effectivement, rendez-vous sur www.suissemoi.com pour suivre ses aventures et lui proposer, si vous voulez, des défis.